Chapitre 29.1. Le vase sacré de l'offrande. Si l'homme veut parfaire le royaume par son action, je vois qu'il échoue. Le royaume est le vase sacré de l'offrande auquel on ne doit pas travailler. Qui y travaille le corrompt. Qui veut le saisir le perd. C'est pourquoi il y en a qui précèdent et qui suivent, qui réchauffent et qui rafraîchissent, qui sont forts et qui sont faibles, qui sont en mouvement et qui sont immobiles. Telle est la raison pour laquelle le sage rejette excès, superflu et luxe. Comme on a mal compris au cours des siècles les mots du chapitre 29 du Tao Te Ching. Comme le monde d'aujourd'hui serait différent si l'on avait perçu le contenu de cette parole vivante de Lao Tzu. Ouvertement, honnêtement, sans détour, en termes sobres, Lao Tzu présente à ses élèves la vérité et la réalité. Or, aujourd'hui, pour faire comprendre quel était son propos, un exposé détaillé et approfondi est au moins nécessaire. La cause en est que le monde et l'humanité, durant des siècles, ont évolué, se sont développés et formés, se sont cristallisés dans une direction qui s'écarte totalement de la direction essentielle. L'humanité est tellement empêtrée dans le labyrinthe de la misère terrestre et le monde devenu un tel enfer que, si nous vous parlions par la bouche de Lao Tzu en vous disant « le royaume, le monde, est le vase sacré de l'offrande auquel l'homme ne doit pas travailler », vous en auriez le souffle coupé d'étonnement. Puis, vous protesteriez avec indignation et ririez peut-être dédaigneusement. Le vase sacré de l'offrande est devenu un trou à fumier. Vous connaissez sans doute les immenses dangers de nature astrale qui s'accumulent en ce moment autour du monde et se déverseront bientôt dans le vase sacré. Comment concevoir et comprendre tout cela? Pour commencer, il faut se faire une idée juste du royaume. Ne pensez pas ici à quelque empire chinois ou principauté antique. Ne pensez pas non plus qu'il s'agisse de certaines instructions données à des dirigeants, ministres ou autres autorités. Le royaume est d'abord la Terre en tant que planète en manifestation. Le royaume où la personnalité humaine devra se révéler pleinement dans sa forme. Le royaume est ensuite le ciel-terre, la véritable demeure de Dieu, offerte par lui à l'humanité pour l'homme véritable selon l'esprit, l'âme et le corps. Vous devez voir la terre terrestre et le ciel-terre comme deux en un, indissolublement liés. Ce sont eux qui forment le royaume. C'est ce royaume qui est le vase sacré de l'offrande, ce qui signifie un espace préparé par le Logos et maintenu par lui, dans lequel un travail puissant, magnifique et divin doit s'accomplir selon la décision du commencement. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Est-il possible de penser un seul instant que cette décision divine du commencement pourrait ne pas être exécutée? De multiples et grandes forces, de nombreuses vagues de vie différentes de la nôtre, effectuent ce puissant travail pour assister dans leur évolution les monades appelées au devenir humain. Or, cette assistance est la voie du sacrifice, un service en forme d'offrande qui dure depuis des temps immémoriaux et continuera dans le vase sacré de l'offrande pour mener le grand plan jusqu'à son triomphe suprême. Les seigneurs du destin, les seigneurs de la compassion, de nombreuses phalanges angéliques et nombre d'autres êtres sublimes forment ensemble la foule des serviteurs qui font cette offrande, la foule de ceux qui sont unis en un seul être puissant, connu comme le figuier toujours vivant. La grande offrande du figuier toujours vivant, au vase sacré, ne cessera pas tant que toutes les monades ne seront pas entrées dans cet état d'être supérieur. Vous êtes habitué à vous considérer comme des hommes. Vous parlez d'humanité. Vous vous appelez des hommes, mais vous n'en êtes pas, pas encore. Cette illusion vous a été inculquée par la théologie et par déformation de la vérité originelle. C'est pourquoi il est bon d'avoir clairement devant les yeux la totalité du chemin de l'humanité. Au cours de nombreuses périodes de préparation, le vase sacré de l'offrande, le 2-en-1 planétaire, s'est totalement accordé au chemin du devenir humain de la monade. Pour désigner le processus entier d'involution, de passage par le nadir et d'évolution, ainsi que pour décrire l'état complet du vase sacré de l'offrande, la philosophie de la Rose-Croix parle de 7 sphères, de 7 aspects du 2-en-1 planétaire. Pour la commodité, vous le savez peut-être, ces sphères sont désignées par les lettres A, B, C, etc. Nous habitons actuellement la sphère D, la sphère du nadir. La sphère E, la 5e de la série de 7, se trouve sur un plan supérieur, c'est-à-dire non du côté de l'involution, du devenir humain de la monade, mais du côté de l'évolution. Sur chaque sphère ont lieu 7 développements qui, dans un certain sens, sont d'une part des répétitions des sphères précédentes et d'autre part des préparations au développement suivant, aux manifestations ultérieures du 2-en-1. Nous habitons actuellement la 4e sphère, la sphère D, donc la sphère du nadir. Sur cette sphère, nous avons derrière nous 3 époques où le passé originel s'est pour ainsi dire répété. Nous sommes maintenant dans la 4e époque, l'époque arienne, où l'aspect de la Terre a subi une fois de plus nombre de transformations secondaires. L'époque arienne est décisive, car c'est à ce moment-là que l'involution et la préparation de l'aspect formel des choses se terminent et que l'aspect intérieur, le noyau, doit se manifester. Tout d'abord, sur cette sphère D, dans les 3 époques ultérieures, l'avenir de l'humanité se manifestera en tant que réalité et s'accomplira totalement. Puis suivront les puissants et magnifiques développements des 3 sphères suivantes, E, F et G. Nous nous en tenons à cette image cosmogonique afin que vous ayez une claire notion de la nature du vase sacré de l'offrande. Et si vous en avez maintenant une image nette devant les yeux, vous savez parfaitement quel formidable plan de développement est à la base du devenir humain auquel sont appelées les monades divines. Et vous savez alors également que ce plan ne peut échouer parce que le figuier toujours vivant enveloppe de son ombre le vase sacré. Le plan qui est à la base du devenir humain ne saurait échouer. Faut-il qualifier cette parole en forme d'axiome, de simple vœu pieux ? Reflète-t-elle un optimisme totalement injustifié si l'on considère le passage actuel par le nadir ? Poussons plus avant notre recherche. Il est évident que l'humanité vit à nouveau une grande crise dans la phase actuelle de la période arienne, comme Lao Tzu et les siens en ont vécu en leur temps. Cette crise s'explique en particulier par le fait que l'humanité, en raison de son égocentrisme, de son ignorance et du manque de force d'âme vraiment libératrice qui en résulte, ne veut pas sortir des profondeurs du nadir pour entreprendre l'ascension libératrice sur la courbe de l'évolution. Impossible de l'y contraindre, parce que ce processus doit s'accomplir en unité, liberté et amour, grâce à l'âme renée issue des 2 courants de la monade dont nous avons parlé au chapitre précédent. Si ce nouvel état de l'âme fait défaut et que l'illusion tridimensionnelle bloque complètement la ressouvenance de la monade, un arrêt absolu marque toute progression. De ce fait, le plan en exécution menace de se désagréger entièrement. L'humanité fait alors l'expérience amère de voir les hommes s'entre-déchirer et s'entre-dévorer comme des bêtes féroces, mortelles autodestruction en série, à laquelle une révolution cosmique donne de temps à autre un coup d'accélérateur. Notre situation mondiale n'est-elle pas de la sorte parfaitement caractérisée ? Non, 1000 fois non. La crise que nous traversons, une fois de plus, est la preuve la plus éclatante que le figuier toujours vivant ne délaisse pas les humains, qu'il n'y a pas de déviation du plan originel qui prévoit d'en faire des hommes, autrement dit, des êtres à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et que la grande exigence est, et reste, l'auto-réalisation. En fait, il ne s'agit pas seulement d'une exigence, mais aussi d'une nécessité naturelle, d'une issue évidente. Le vase sacré de l'offrande, ou cratère sacré comme le nomme Hermès, a pour fondement les lois naturelles qui offrent à l'homme en devenir une seule issue, l'accomplissement et la libération par l'auto-réalisation. Pour comprendre cette loi naturelle, vous devez tenir compte des aspects suivants. Premièrement, il est question de la monade ou microcosme de l'homme en devenir. Deuxièmement, de cette monade émanent, comme nous le disions au chapitre précédent, deux courants de force inversement polarisés l'un par rapport à l'autre, la force masculine et la douceur féminine. Troisièmement, il y a un soi de la monade, ou ego de la monade, la conscience du microcosme, c'est du noyau de celui-ci qu'émanent ces deux courants. Quatrièmement, par la naissance naturelle, apparaît continuellement une personnalité, instrument au service de la monade. Cette personnalité comporte, cinquièmement, une conscience naturelle, un moi, le moi né de la nature ou ego, qui est à l'état de conscience issu de la nature. Sixièmement, il y a un être karmique nommé également le moi ou ego karmique, le soi astral, l'adversaire ou démon. Septièmement, ces aspects vitaux, qui se manifestent en coopérant ou en s'opposant, assurent en perfection la victoire finale du plan de Dieu. Nous espérons vous démontrer, au chapitre suivant, pourquoi ceci est incontestable. Si nous y réussissons, vous comprendrez pleinement le chapitre 29 du Tao Te Ching.